RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. 9 millions d'euros. Les grandes gueules, c'est le coût du gala des pièces jaunes parrainées par Brigitte Macron. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Antoine.
On s'en fout pas.
Fatima.
On s'y intéresse.
Ah, elle n'y arrive pas. Mourad.
Je m'en fous.
Ah bon. Le grand concert diffusé sur France Télévisions vendredi dernier, pour la première fois depuis 4 ans, était financé via une holding de LVMH et non directement sur les fonds du groupe de luxe, car en interne, et GG, ça jasait, selon le média en ligne La Lettre, les hauts dirigeants ne voyant ni l'intérêt ni de retombées claires pour LVMH. Donc, pourquoi tu t'en fous pas, Antoine ?
Alors, sur ce genre de sujet, tout de suite, il y a beaucoup d'argent, c'est une œuvre caritative, et donc les gens ont l'air de dire que c'est pas normal, mais en réalité, c'est de l'argent privé.
Mm-hmm.
Et donc, j'aimerais bien, donc je veux rappeler que c'est de l'argent privé, et j'aimerais bien savoir combien cette mise de fonds, entre guillemets, pour créer l'événement, rapporte à l'œuvre caritative. Si c'est significatif, si ça permet de ramener de l'argent pour les pièces jaunes, eh ben, j'ai pas de difficulté à ce que des gens aisés mettent beaucoup d'argent sur un événement.
Juste une remarque sur les 9 millions, il y a une partie qui aurait été de l'impôt. On est en optimisation fiscale.
Il y a des règles, toi qui as été dans le sport, il y a des règles à respecter.
Exactement.
Il y en a un cours d'économie.
Fatima.
Il y a toujours ce flou où on se demande est-ce qu'on se met au service d'une cause ou on met une cause à son service, au service de l'image, et c'est toujours
les deux.
Très flou, c'est toujours un petit peu les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est efficace ou pas ? Voilà. Et les gens demandent ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça change? Les pièces jaunes, c'est pour les enfants. Est-ce que, à la fin, les enfants vivent mieux? Et c'est la seule question, la seule chose qui intéresse les gens, c'est ça. Voilà. Dernière, après.
Quand même, la question aussi se pose sur le frais de fonctionnement de toutes ces associations. Il y a eu des scandales avec la Croix-Rouge.
Ouais.
On s'est aperçu que ça coûtait un pognon de dingue en administratif, etc. Et là, tu trompes les gens. C'est-à-dire que moi, quand tu donnes une pièce jaune ou quand tu donnes l'argent à la Croix-Rouge, tu penses que tout va à la Croix-Rouge pour les enfants, pour les blessés, et puis pareil pour les pièces jaunes. Si tu t'aperçois que ça finance un train de vie, que ça finance des beaux bureaux, tu vois, c'est pour ça que je trouve
qu'il faut être sorti
en plein air là-dessus. Il faut être très transparent et que ce
et
soit.
Être intraitable dans les contrôles.
Et être intraitable parce que sinon c'est du mensonge. Si on ne veut pas une grosse machine pour finalement, à la fin, celui pour qui on pense que c'est n'a rien. C'est comme pour les Restos du Cœur où il y avait les polémiques autour de tout
pareil.
Ça.
On enchaîne, Anaïs.
Les GG, 62% des recruteurs ont déjà recalé un candidat à cause de son profil sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad ?
On s'en fout pas.
Fatima.
On s'y intéresse vraiment.
Et Antoine.
On ne s'en fout pas du tout.
Les réseaux sociaux, les GG, sont de plus en plus scrutés par les employeurs, si on en croit une récente étude publiée par le site de recrutement Indeed. Une pratique devenue si courante qu'elle influence directement les décisions d'embauche, parfois au détriment des candidats. 80% des recruteurs consultent les réseaux des candidats au cours de la phase de recrutement. Et plus d'un employeur sur deux admet donc avoir déjà écarté un candidat en raison de ses posts sur Facebook, Insta ou TikTok. Vous savez comment on appelle ça ? C'est le screening social. On stalk, on fouille sur vos réseaux, on regarde s'il existe des incohérences entre votre CV ou votre profil et votre profil Insta. On regarde s'il y a des comportements inappropriés aussi, des contenus offensants ou discriminatoires. Pourquoi tu t'en fous pas, Antoine ? Ils ont raison de faire ça, les employeurs ?
Je m'en fous pas parce que je le fais moi-même. Il m'est arrivé dans des vies professionnelles antérieures de devoir recruter ou conseiller sur un recrutement. Et évidemment que moi, je check tous les réseaux sociaux et toutes les traces Internet. Et en fait, les gens, et notamment les plus jeunes, même s'il y a des vieux aussi qui font n'importe quoi sur les réseaux, ne s'en rendent pas compte.
Ah.
Et je donne une anecdote personnelle. Un jour, après une émission ici, il y a un mec vraiment qui m'insulte, qui m'agonise d'insultes sur les réseaux sociaux avec son nom. Et en fait, on retrouve la boîte où il bosse, etc. Et donc, j'ai appelé, j'ai demandé à lui parler et j'ai réussi à lui dire, mais monsieur, pourquoi vous insultez les gens sur les réseaux comme ça? Et le mec était outré qu'on ose l'appeler et qu'on le retrouve et c'était moi le fautif.
En fait,
les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils laissent. Et moi, je pense que c'est très intéressant de voir les traces qu'ils laissent.
Fatima,
là où je ne suis pas complètement d'accord, parce que tu dis les jeunes ne se rendent pas compte, on a de plus en plus la nouvelle génération, il y a un changement par exemple, ils floutent leur visage. Par exemple, mes troisièmes de l'année dernière, c'est là que j'ai vu vu ce phénomène-là. Sur leur réseau, ils vont avoir le visage flouté, donc ils postent visage flouté, faux nom, donc des pseudos, ils vont pas mettre leur nom et leur prénom, et beaucoup de comptes privés. Alors qu'avant, il y a 10 ans, les gens étaient un peu plus naïfs. Donc il y a un petit changement dans la façon de communiquer, et je pense que sur le long terme, on aura bientôt des avatars. Ça veut dire un peu comme les Sims à l'époque, mais on va avoir des réseaux sociaux, mais avec finalement pas notre image, pas notre nom, mais un personnage social pour distinguer les deux. Ça, c'est fort possible. En tout cas, on va pas pouvoir continuer comme ça. Hein.
Mourad.
Moi, chaque fois que
j'ai un recruteur,
je suis jamais allé sur les réseaux sociaux. Je préfère recruter quelqu'un de très compétent qui a des idées à contrario avec les mêmes, avec les miennes. Mm. Ce qui m'intéresse, c'est la compétence. Et je trouve qu'à force de regarder sur les réseaux sociaux, on va peut-être oublier la chose prioritaire, c'est la compétence de la personne, son CV, sa compatibilité avec un travail d'équipe.
C'est pas les idées que j'ai jugées sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut avoir des comportements.
Les gens, ils racontent des conneries. C'est les idées qu'ils vont aller voir sur les réseaux sociaux pour qu'ils votent, qu'ils pensent et tout.
Mais ça peut être aussi des comportements.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la compétence de la personne. Je ne me suis toujours fié qu'à ça. Après, je vais pas sur les réseaux sociaux, mais il m'arrive de poser quelques questions pour avoir un peu genre, vous lisez quoi, vous écoutez quoi.
Oui, mais pour l'image de ta boîte, si le type fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pardon, à un moment donné, il a pu être sympathique et présentable avec toi.
Qui s'appelle le licenciement. Je veux dire, s'il fait n'importe quoi, c'est toujours possible dans une entreprise.
Oui, mais toi-même, t'as dit que c'était très difficile de licencier. Mais moi, t'avais même la métaphore de l'adoption.
Quelqu'un qui fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui a une énorme valeur ajoutée pour ta boîte, vous faites quoi?
Bah oui, justement, on demande.
Bah, il a plus de valeur ajoutée s'il dit n'importe quoi.
Ah ouais, mais si quand il est là, tu fais un chiffre d'affaires, avant qu'il soit là, tu fais un chiffre d'affaires, et depuis qu'il est là, tu fais 50%
de plus. Séparer l'œuvre de l'artiste.
Par exemple, une petite vendeuse qui aurait un OnlyFans et ça remplit ton magasin. Ouais, je vois le genre.
Non. C'est-à-dire que vous donnez une dimension. C'est-à-dire que quand t'es dans une entreprise, la priorisation, c'est le chiffre d'affaires.
Un animateur fait de l'audience, mais que par ailleurs, il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle, c'est pas grave alors.
Ah non, ça c'est différent. Attends. Là, on parle de délit et de délit grave.
Et Jean-Marc Morandini ne devrait plus être à l'antenne, c'est aberrant.
Nordal Le Landais se présente, même s'il est très compétent, je pense quand même qu'il va relancer le débat que j'ai
l'intention. Il est en prison, lui.
Voilà. Bien sûr.
Bonjour, Nordal Le Landais.
Oui.
Est-ce que
il y a un trou dans votre CV, vous l'avez embauché,
mais là pendant 20 ans vous n'avez pas travaillé alors.
Oui, mais il est bon.
J'étais occupé à une sorte de retraite spirituelle, monsieur.
Non, bien sûr, il y a des limites. On est tous d'accord.
Anaïs,
les GG, la sieste au travail, est-ce que c'est la vie? Une étude du centre médical de Fribourg en Suisse révèle que la sieste au boulot, même courte, remet les idées du cerveau en place, favorise la concentration et la mémorisation de nouvelles informations. Vous savez que l'ex-ministre de la Santé, Yannick Noder, voulait encourager la sieste au travail l'été dernier. Je vous rappelle que le sommeil des Français s'est dégradé. Un adulte dort en moyenne 7 heures par nuit. C'est 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Pourquoi ? Est-ce que tu t'en fous, mon cher Antoine ?
On ne s'en fout pas du tout.
Fatima,
s'y intéresse.
Mourad ?
On s'en fout pas.
Antoine,
j'ai moi-même pratiqué la sieste au travail, mais de manière un peu discrète, tu vois, presque tu
pas
te dis
assuré. Ouais, grande gueule des fois,
t'assumes pas. Et donc effectivement, tu fermes la porte de ton bureau à 13h45 et tu te dis, ouah, jusqu'à 14h, je vais baisser le siège et tu fais ta sieste, mais c'est pas assumé du tout. Mmh. Alors que j'aimerais que ça puisse être totalement normalisé. Et tu dis, hey, je pionce là, personne me dérange, et tu décroches ton téléphone et ça devrait être accepté parce que c'est bien. Et moi, ça me rebooste après une petite sieste d'un quart d'heure après le repas. Je suis reparti pour l'après-midi. Donc, normalisons la sieste au travail.
Ça t'est arrivé ou pas ?
Écoutez, moi, j'ai une telle dette de sommeil que je suis incapable de faire des micro-siestes. J'en rêve. C'est-à-dire, j'ai lu Chirac qui faisait des siestes comme ça de quelques minutes. Mais moi, si j'essaye de dormir quelques minutes,
fait une sieste
c'est
de
fini.
Combien, Chirac,
je me réveille le lendemain.
C'était 5 minutes douche comprise, mais c'était pas des siestes.
Non, mais
si,
je ne parle pas de ça. Il faisait des micro-siestes de l'avion.
C'est pas du tout.
Regardez, Jacques Chirac était connu pour ça. Il arrivait à faire des micro-siestes.
Je te dis, il a fait une micro-sieste de 12 ans, Chirac.
Laissez-le tranquille.
Mourad.
Alors, ce qui est très amusant et surprenant, c'est que les gens qui sont pour la sieste au travail et ceux qui bossent de 9h à midi et de 14h à 19h, ils vont vouloir faire la sieste après 14h, pas entre midi et 2, c'est-à-dire qu'une sieste pendant leurs heures de travail où ils sont payés, on paye de l'URSSAF, c'est là qu'ils vont vouloir faire la sieste. Pas quand ils sont dans leur pause et tout, dans leur pause, ils veulent en profiter.
C'est des micro-siestes.
La récupération, c'est pendant les heures de travail. Non, moi par contre, il y a un truc qui est plus grave que ça, que je trouve inadmissible. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui arrivent le matin au bureau, dématés.
en me disant, oh, je me suis coûté à 4h du matin, oui. on a fait la bringue, on a le truc, et le mec, il est pas en état de travailler.
Mais voilà,
ça, c'est scandaleux. Le mec, il vient, il est pas en état de travailler. Mais comme il est présent physiquement, ben voilà, mais la sieste, c'est un peu pareil.
Mais on dort moins la nuit, hein. Les Français dorment beaucoup moins.
À cause des réseaux sociaux.
Mais moi, j'estime qu'on doit avoir une conscience professionnelle et quand on a un engagement, on doit avoir un minimum d'hygiène dans sa vie pour respecter ses engagements.
Ce qui est intéressant.
Pas aussi opérationnel quand on a dormi 2 heures que quand on a dormi 7 heures.
Ce qui se fait peu dans les bureaux français, mais ce qui se fait beaucoup dans les bureaux anglo-saxons et dans les grands open space anglo-saxons, c'est les lieux de détente. Justement, de façon à ce que les collaborateurs, s'ils sont fatigués, s'ils rentrent...
On en a un ici.
S'il y a un lieu mou, comme on dit, c'est que tu puisses t'isoler. C'est la salle de repos. Il n'y a pas forcément un canapé, un sofa, mais simplement un lieu où tu peux te reposer l'esprit et effectivement fermer les yeux 5 minutes.
Les maquilleuses d'ici, qui se lèvent quand même très tôt, elles ont un petit endroit pour récupérer un peu. Et ça fait partie de... Enfin, c'est indispensable.
En France, t'as la sieste honteuse, là où les anglo-saxons disent peu importe, si le collaborateur a besoin de se reposer 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite d'être productif au travail, opérationnel.
Un collaborateur qui n'a pas dormi de la nuit, qui demande à faire une sieste, on dit fais ta sieste.
Nous, on a un canapé dans l'open space, on utilise
pour faire la sieste.
Mais c'est des micro-siestes, parce que c'est pas une sieste.
Il faut dormir une demi-heure.
En tout cas,
j'ai retenu l'expression d'Anaïs, c'est la sieste, c'est la vie. C'est ce que tu as dit, quoi.
La sieste, c'est la vie.
Bien sûr.
Anaïs, qui de temps en temps, pour faire la sieste, se met sous le bureau.
Oui.
Elle a un plaid, elle se met sous son plaid et elle se met sous le bureau.
J'adore.
Alors, on va parler d'un collaborateur qui fait la sieste. Il fume. Tous les quarts d'heure, il va s'arrêter pour fumer. À 14h, il va faire sa sieste. Après, il a besoin de donner des coups de fil. Il reste combien de temps de travail?
Allez, dans un instant, avec les GG au 32-16, l'élève qui a poignardé l'enseignante à Sanary. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.